Alors, bienvenue, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous arrivez dans des discussions avec des personnes d'essayer de vouloir prouver que Dieu existe. Et c'est la même chose pour la résurrection. Il est impossible de prouver que Christ est ressuscité, mais c'est uniquement dans les domaines des objets, de la technique, qu'on peut donner des preuves. Pour croire au grand événement de Pâques, il est d'abord nécessaire de découvrir que l'amour de Dieu est manifesté dans la vie et dans la mort du Seigneur. Et c'est une réalité fondamentale qui donne une base, un sens, une espérance à notre vie, à notre existence. On aimerait prouver, pour nous on le sait, mais on aimerait prouver. Et vous avez sûrement entendu quelquefois cette déclaration de personne, « Je ne crois que ce que je vois ». Mais dans l'Évangile, il ne faut pas voir pour croire, mais il faut croire pour voir. C'est pas pareil. Et pour ça, on va lire Jean 20, 24 à 29, qui est très connu, c'est l'histoire de Thomas. Jean 20, 24 à 29. Là, c'était les doutes de Thomas s'évanouissent. Or, je ne lis pas tout le début, hein, parce que c'est long, simplement le petit passage là. Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint, ou quand Jésus leur apparut. Les autres disciples dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main de son côté, je ne croirai pas. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et debout milieu dit, il dit, la paix soit avec vous. Il nous a rappelé la paix du Seigneur. Puis il dit à Thomas, « Mets ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. » Et vous savez que Thomas a une mauvaise presse. C'est un nom qui lui colle à la peau, vous savez, le surnom que les commentateurs lui donnent. Thomas le sceptique. Ses doutes quant à la résurrection de Jésus-Christ tiennent peut-être davantage au fait qu'il n'était pas présent lorsque le Seigneur est apparu la première fois. N'est-il pas évident que les autres, n'importe lequel des autres apôtres, ou nous, si on avait été là, on n'aurait pas agi comme Thomas. Parce qu'il était absent ce jour extraordinaire. Mais Thomas ne manque pas de courage, même qu'il doute. Lorsque Jésus avait envie de quitter la Galilée pour se rendre en Judée afin de ressusciter Lazare, si on se souvient, et que ses disciples comprenaient la situation politique, ils ont reconnu que la situation était dangereuse parce qu'ils cherchaient à se saisir du Seigneur parce qu'il avait ressuscité un homme. Rendez compte, au lieu de louer le Seigneur, le remercier, on veut le choper celui-là, on va le zigouiller. C'est ce qu'ils ont essayé de faire tout le temps. Et Thomas dit, allons-nous aussi mourir avec lui. On le trouve dans le chapitre 11, Jean 11, verset 16. C'est parfois, on le voit dans les exemples dans les évangiles, c'est lui qui était le porte-parole des autres disciples pour parler à Jésus et pour poser la question qui lui brûle les lèvres. Alors ainsi Jésus annonce son départ et ajoute qu'il connaisse le chemin où il va. Et Thomas, il s'exprime pas en son nom, il s'exprime au nom de tous. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. » C'est Jean 14, 5. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Voyez, le douteur. Jésus a annoncé l'avance. mais il n'est pas d'accord, il ne comprend pas. Et nous avons cette fabuleuse réponse de Jésus au verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par lui, par moi. L'absence de Thomas à la première apparition de Jésus lui a causé des ennuis. Il a dit, c'est pas possible. J'étais pas là, j'ai pas vu, je ne crois pas, je crois que ce que je vois, combien nous-mêmes aussi nous sommes comme ça, je crois que ce que je vois. Où est la confiance? Où est la grande confiance en Christ? Moi le premier, combien de fois je doute? Mais c'est humain de douter, c'est normal. Thomas ne réclame pas d'autres preuves. Et lui, on dirait qu'il est venu exprès pour lui. Avance tes mains, regarde sur mon côté. Et qu'est-ce qu'il lui dit? L'une des plus grandes confessions, mon Seigneur et mon Dieu. Et cette déclaration de Jésus, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors, de quel côté sommes-nous? De ceux qui voient, qui veulent voir pour croire, ou de ceux qui croient sans voir? À nous de répondre. Et on va voir ensemble 5 points de la beauté morale de notre Seigneur Jésus, suite à ce Thomas. Premier point, il nous connaît exactement tel que nous sommes, mais il ne nous condamne pas. C'est précieux, il sait qu'on a des doutes, il sait qu'on ne croit pas, il sait qu'on a des difficultés. On se dit, quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, ils ont eu la mer Rouge, ils ont eu ci, ils ont eu ça, mais ils ne croient pas, mais nous on est guère mieux. Enfin, moi je suis guère mieux, vous je ne sais pas, j'accuse personne, mais les doutes sont là. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Pourtant, je suis sûr d'être sauvé, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que tu l'es? Tu peux être guéri. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Les doutes viennent, nous envahissent et on ne fait plus confiance. On veut voir. Et je vous ai dit que Jésus-Christ nous aime tel que nous sommes. Et avec nous, c'est le contraire qui se passe. Quand on connaît une personne de mieux en mieux, on découvre ses faiblesses. Et on commence à condamner, à critiquer. On pense, quand on la condamne, qu'on est rempli du Saint-Esprit. Ou elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Ou tu vois ça. Et on dit, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a montré que tu devais faire ça. Et on juge. On voit les défauts. Mais ces défauts, c'est souvent le reflet des nôtres. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là, à critiquer. Et cette personne n'a plus la même valeur à nos yeux. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Moi, je l'ai déjà faite. Hein. Mais avec le Seigneur, c'est tout le contraire. Il nous connaît parfaitement, comme ça a été rappelé ce matin, mais malgré tout, il nous aime encore et il nous aimera toujours. C'est fantastique, c'est merveilleux. Mais lui pourrait nous condamner, parce qu'il sait nos pensées, nos mauvaises pensées qui montent dans notre cœur. Mais il nous aime toujours plus. Ça, c'est merveilleux, on ne peut pas le comprendre. Ça nous dépasse. Pierre connaissait ce problème aussi, lui qui l'a renié 3 fois. Il pouvait penser que Jésus ne pouvait plus l'aimer, ce n'est pas possible. Eh bien non. Après la résurrection, le Seigneur dit aux femmes, Marc 16, 6 et 7, il leur donne, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. On sait qu'après, il a été rétabli Pierre et plusieurs fois il a dit, paix mes brebis, il a donné du travail en plus. Ne pensez pas que je ne pense pas moi-même si j'ai failli dans un domaine ou un autre. Parce qui ne branche pas, la parole nous le rappelle. Prenez garde de vous croire supérieur au tout, mais vous pouvez brancher de plusieurs manières. Que le Seigneur vous rejette, au contraire, il nous aime encore plus. Il s'approche de nous pas comme un gendarme qui s'approche d'un voleur, non, mais comme d'un médecin avec son patient. Qu'est-ce que le médecin veut? Il a un seul but, c'est de guérir son patient, de le délivrer de son mal. Voilà. Deuxième point, il s'approche d'abord de celui ou de celle qui est ou qui sont dans le besoin, qui ont un besoin. Remarquez que le Seigneur, il semble qu'il est venu tout exprès pour Thomas, hein, parce qu'il avait ce besoin de croire comme les autres. Si nos besoins sont réels et profonds, on verrait davantage le Seigneur venir à nous, par sa parole d'abord, par des prières, par des chants, par des témoignages d'autres personnes, par des paroles de frères ou de sœurs, parce que le Seigneur les conduit à nous parler, à être fortifié, encouragé. Mais on a plus de désirs que de vrais besoins. Les désirs. On désire que Jésus nous bénisse. Oui, c'est bien, il le fait au-delà de ce qu'on mérite, au-delà de nous-mêmes. Et puis, s'il ne nous bénit pas, ben tant pis. Mais il faut avoir ce besoin ardent, profond, de rencontrer le Seigneur. Partout dans la parole, on voit que le Seigneur a répondu à qui? À ceux qui avaient des besoins, pas seulement à ceux qui avaient que des désirs. Philippiens 4, 19 nous dit « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon la richesse, sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Parce que les Philippiens, là, ils s'étaient sacrifiés pour aider l'apôtre. Et l'apôtre leur promet que Dieu le rendrait au centuple, car le Seigneur n'est le débiteur de personne. Cette déclaration s'applique aux besoins de ses croyants, mais pas à leurs désirs, parce qu'ils avaient des besoins profonds. Cela dit, certaines promesses des Écritures viennent au-delà du strict nécessaire. Car Dieu prend plaisir à bénir abondamment ceux qui lui font confiance. Croire, c'est égal confiance. On nous dit toujours que les démons croient, mais ils tremblent. Mais ce qui compte, c'est pas de croire en Dieu, c'est de croire ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est ça le plus important. Les besoins, c'est quelque chose de profond. Les désirs, c'est superficiel. Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Thomas avait ce besoin de voir, c'était un besoin profond en lui. Si je veux savoir si tu es ressuscité, c'était une affaire de cœur et non de tête seulement. Parce que très souvent, nous, ça s'arrête là. On rumine et puis ça descend pas. Veux-tu être guéri, qui nous a dit aussi quand Jésus devant la piscine. Là, c'est un besoin. Est-ce que tu désires être guéri? Non, mais veux-tu? Il faut le vouloir. J'ai eu des témoignages de personnes qui étaient paralysées, que tout le monde priait pour eux, puis il se passait rien. Puis quand ils ont discuté avec la personne, « Oh non, je veux pas être guéri. Pourquoi ?»« Ben parce que j'ai la haie, tout le monde s'occupe de moi, etc. » Tandis qu'après, si je suis guéri, je dois recommencer à travailler, je dois... Voyez, c'était qu'un désir, mais pas un besoin profond. Désir ou pensée, c'est des opinions, c'est des croyances, c'est des idées. C'est concevoir quelque chose par réflexion. Tandis que les besoins, ça vient du cœur. C'est l'ensemble des puissances affectives, le cœur. C'est l'amour, la sensibilité, le zèle, l'ardeur, la reconnaissance, les sentiments. Je sais qu'on peut dire ce qui, des fois, les sentiments, ça ment, ce qu'on sent, ça ment, mais il faut des sentiments quand même. Troisièmement, vous supportez encore? Ah oui, bon, ça va. Troisième point, il est plein de patience envers le douteur sincère. Il y a un douteur sincère et il y a un douteur professionnel. Je m'explique. Pourquoi ce thème de sincère? Parce que le douteur professionnel, s'il voit un miracle, il n'y croira pas. Il a décidé de ne pas croire, de ne jamais croire à la puissance de Dieu. Et là, le Seigneur peut rien pour cette personne. Vous-même, vous pouvez rien, vous pouvez discuter des heures et des heures, ça sert à rien. Il ne croit pas, il ne veut pas croire. Tandis que, comme Thomas, il a douté, il ne croyait pas, il a dit « je ne croirai pas », mais il s'est laissé gagner, il a changé d'orientation. On peut avoir des doutes, on peut avoir de la peine à croire quelque chose, oui, mais on peut changer d'avis, parce que le Saint-Esprit nous travaille, nous montre. Le Seigneur ne force jamais quelqu'un, le Saint-Esprit non plus. Thomas lui dit à peu près ceci, « Je ne comprends rien, mais j'aimerais croire, Seigneur, aide-moi, c'est ce qui s'est passé. Je ne crois pas si je ne vois pas, mais Seigneur, je ne comprends pas, mais aide-moi à croire en toi. Aide-moi à pas seulement le voir, mais le croire. » Et cette attitude, quand on a, Jésus peut intervenir, le Saint-Esprit peut nous aider, nous transformer. Je comprends rien, tu vois, je suis nul. Parce que souvent on se croit pas nul, justement on se croit supérieur. On est des Suisses aux bras noueux. Ah ouais, c'est ici, ouais. Eh bien, souvent, il va nous aider. Lui ne se lasse jamais de venir vers nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on est? Moi, je suis impatient. Je veux tout de suite. Seigneur, donne-moi la patience, mais tout de suite. Non, mais non, ça se passe pas comme ça. Puis on leur dit, ceux qui doutent, mais il faut croire, c'est écrit, ceci, cela, et que nous-mêmes, on n'est pas convaincus. Mais le Seigneur, il use de patience envers tout le monde, moi le premier. Et puis, il doit souvent être patient. Hein. Ma femme dit toujours, je suis le colonel. C'est crac, crac. Bon, ben, mais le Seigneur, même comme je suis, il a du boulot hein, avec moi. Bon. Quatrièmement, plus que deux, c'est fini. Il est le seul capable de guérir les doutes. Si on passe du temps à discuter, ça va pas. Si on discute, moi je me rappelle avec une personne que je nommerai pas, des heures et des heures à discuter. Mais c'est quoi? C'est deux têtes qui se rencontrent, puis quand deux têtes se rencontrent, ça fait du bruit, paf! Ça cogne. Mais quand deux cœurs se rencontrent, c'est tout différent. Paul dit à 2 Timothée 2, 23, « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Est-ce que ça vous est jamais arrivé de se quereller? Même des fois pour la parole, pour essayer de prouver que Dieu existe, d'essayer de prouver que Jésus est ressuscité, on le sait. Mais on aimerait prouver aux autres. Ah, tu vois. Non? À cette époque, de nombreuses hérésies circulaient dans les églises, mais maintenant c'est pas mieux, hein. Parce que d'une part, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, rédigé, et d'autre part, le diable faisait des heures supplémentaires. Oh, il en fait aussi beaucoup maintenant, hein. Sous l'égide des rabbins mystiques, bien des passages de l'Ancien Testament, et surtout les généalogies, donnaient lieu aux interprétations les plus farfelues. Les fausses croyances étaient monnaie courante aussi, comme aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, l'Ecclésiaste le dit, nous le rappelle. Voilà pourquoi les croyants doivent pouvoir se défendre leur foi et leur vision spirituelle du monde, mais sans se laisser embarquer dans des discussions vaines, interminables. À un moment donné, il faut savoir se taire et puis dire « prier ». Voilà. Au premier siècle, c'était surtout les judaïsants qui étaient dangereux pour les églises. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des loups déguisés en agneaux. Aujourd'hui aussi. En effet, ils ne s'opposaient pas à la foi en Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'il fallait se conformer au rite de la loi de Moïse. Ils rajoutaient de la loi. Seulement, cette doctrine est aux antipodes du Nouveau Testament, la loi. C'est tout par grâce. Bien sûr qu'il y a aussi des lois, C'est nécessaire pour l'être humain, autrement on fait n'importe quoi, c'est clair. Il n'y a qu'à voir au volant, hein. S'il n'y aurait pas de loi, ce serait la catastrophe. C'est déjà la catastrophe normalement, donc... Et le Nouveau Testament nous enseigne que le salut est un don de la grâce de Dieu. Il s'obtient exclusivement par la foi en Jésus-Christ. Alors, la bonne et seule façon de faire connaître le Seigneur est de proclamer la vérité de la parole de Dieu, d'éviter d'argumenter contre les faux systèmes religieux ou philosophiques, parce que c'est du blabla, et c'est tout. Rien d'autre. Ce n'est pas une discussion sur la résurrection qu'a convaincu Thomas. Mais c'est qui? C'est Jésus lui-même qui l'a convaincu. Ils ont pas dit, ils ont peut-être discuté dans la semaine, puisqu'il a dit si je ne vois pas, je ne croirai pas, mais ils ont peut-être polémiqué. Ah non, 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 non. Ils s'en pris la tête peut-être pour essayer d'y dire on l'a vu, il est ressuscité, lui. Non, 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 il n'y a rien à faire. Et c'est pas cette discussion sur la résurrection qui l'a convaincu. C'est qui? C'est Jésus lui-même. Alors pour nous, abandonnons-nous, il y a des fois, hein, à Jésus. Ne discutons pas. Les gens n'ont pas besoin de nous, mais ils ont besoin de Jésus. Et nous, on se croit toujours indispensables. Même dans les témoignages, on se croit indispensables. Non, ils ont besoin que le Seigneur leur parle, que le Saint-Esprit les convainque de péché, de justice, de jugement. Et nous, on se croit toujours indispensables. C'est le Seigneur qui est indispensable, pas moi, pas nous. Dernier point, ouf, on arrive à la fin. 25 minutes, ouh là là. Je blague beaucoup aussi, hein. Cinquième point, il est un Dieu digne d'une confiance absolue. Devant les mains percées de Jésus, Thomas comprend qu'il n'est pas seulement son maître, mais son Dieu, son Seigneur. Tu es ressuscité. Là, il l'a vu. Là, il était convaincu qu'il était le Dieu de l'impossible. Pour Dieu, le mot IM, vous pouvez le biffer. Pour nous, c'est impossible, mais pas pour Dieu. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. Je me soumets à toi. Dieu se révèle à ceux qui se soumettent à sa volonté. Uniquement en se soumettant à sa volonté, on a tout de lui. Et on va voir que Romains 12.1, qui est connu, c'est consécration au service de Dieu. Si on ne se consacre pas à son service, à lui, il ne se passe rien. On restera toujours dans le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit, est-ce qu'il va faire ceci, est-ce qu'il a fait cela, est-ce qu'il peut faire moi, est-ce qu'il peut m'aimer, etc., etc. Je vous exhorte donc, frères, les sœurs sont comprises avec, hein, quand là, la parole c'est frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps, c'est-à-dire vous offrir vous-même entièrement, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. La dispensation juive à l'époque avec ses sacrifices était terminée. Elle s'est achevée lorsque Christ, notre Pâque, fut offerte. C'est 1 Corinthiens 5, 7 qui nous dit. Mais de nouveaux sacrifices sont venus. Nous devons nous offrir nous-mêmes. Ce n'est plus les boucs, les veaux, c'est nous-mêmes. Nous devons, comme la victime sur l'autel était consacrée à Dieu, on doit monter aussi sur l'autel. Quand ils offraient les sacrifices, il y avait des marches, ils devaient monter dessus. Eh bien, nous aussi, on s'offre en sacrifice à Dieu, à Christ. Lui s'est sacrifié d'abord le premier pour nous, mais nous, on doit s'offrir aussi en sacrifice, c'est-à-dire qu'on s'appartient plus à nous-mêmes. Et ça, c'est difficile, hein. Ouh là 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 là. Seigneur, t'as du boulot. Mais, il nous aime malgré tout. Un culte raisonnable. La consécration du corps, de notre corps entier, âme, esprit et corps, pas seulement le corps, mais aussi notre esprit, notre âme, c'est pas un acte apparent seulement, comme le sacrifice sur l'autel, mais c'est une action de l'esprit, de la raison, d'un service, d'où la notion d'un service raisonnable. C'est un besoin, c'est pas seulement superficiel. Après, on peut dire « mon Dieu ». Je ne comprends pas toujours tout. Est-ce que vous comprenez toujours tout dans la parole, dans la marche? Si vous comprenez tout, levez la main, je vous prends photo. Mais je dois me soumettre à Dieu, parce qu'il est plus grand que moi. Ma petite foi, Seigneur, augmente ma foi. Mais ce n'est pas la foi qui compte, c'est qu'on a une foi, on a un grand Dieu. C'est ça l'important, même si elle est tout petite, ta foi. Ça ne fait rien, tu as la foi en un grand Dieu. Il peut l'augmenter. Donc, pas dans mon raisonnement, mais dans la foi que Dieu m'a donnée. Et c'est seulement après la résurrection que le nom de Jésus se trouve précédé du titre de Seigneur. Ce titre était réservé à César à l'époque, maintenant à d'autres. Hein. Tout homme prétendant vouloir le porter était punissable de mort. Et nous comprenons pourquoi ce titre excitait la colère des ennemis de Christ. De même aujourd'hui, est-ce que d'appartenir à Christ, de porter ce nom de chrétien, ça n'excite pas la colère? Parce qu'on accepte la seigneurie du ciel sur notre vie et ça excite la haine du monde. Pourquoi? Parce que le monde appartient à qui? À l'ennemi. Et le Seigneur aujourd'hui veut être Seigneur dans toute l'acceptation du terme dans notre vie. Le meilleur service qu'on peut rendre à nos semblables pour témoigner autour de nous, c'est de nous livrer sans réserve et entièrement à la vie de notre vie au Seigneur ressuscité. Alors seulement il pourra nous employer comme il voudra, pas comme moi je veux. Pas Seigneur, donne-moi ceci, fais cela, mais comme je veux, moi, parce que c'est dans mon intérêt à moi. Non, comme toi tu veux, pas comme moi je veux. Et il pourra déployer sa puissance de la résurrection et des fleuves d'eau vive couleront de nous, parce que la parole nous le rappelle. Ésaïe 30, verset 15 nous dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ou une autre version, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et il rajoute, mais vous ne l'avez pas voulu. Il faut tout lire. On s'arrête là. Mais vous ne l'avez pas voulu, alors il faut vouloir. C'est la même chose qu'on avait partagé mercredi. Tu te souviens de quoi? Mais, oui. Rappelle déjà plus. Voilà. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez. Alors, il faut le vouloir venir. Et bien là, c'est la même chose. Et il le dit, c'est dans le calme et confiance sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Sachant faire votre face, parce qu'on peut toujours revenir en arrière, toujours changer, toujours être... reconnaître nos difficultés, venir au pied de la croix, comme on dit, ne reprenons pas, comme on l'a vu mercredi, encore des vieilles choses, parce que ça vient toujours plus lourd. Suivons plutôt celle de notre devoir. C'est elle qui met nos saluts. La foi, la confiance, croire. Notre force consistera à être dans le calme et la confiance en Dieu. En ayant l'esprit en paix, comme tu nous as rappelé avant, en comptant uniquement sur lui, pas sur nous. Dernier verset, Dieu dit à Judas, « Votre salut réside dans un retour à moi. » Pour nous, c'est la même chose. « Et dans le repos en moi. » Votre force réside dans le calme et la confiance. Ah oui, oui, c'est ça. Votre force réside dans le calme et la confiance plutôt que dans une fuite éperdue vers l'Égypte. Alors, pour conclure, un petit récapitulatif, ça fait du bien parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez été bien patients. Dans l'Évangile, je vous le rappelle, c'est très important, il ne faut pas croire, pas voir pour croire, mais il faut croire pour voir. Et je vous rappelle ces 5 points qu'on a partagés brièvement, parce qu'il y aurait beaucoup plus à dire, mais je vois que l'heure tourne. Ces 5 points qui révèlent la beauté morale du Seigneur. Il nous connaît exactement tel que l'on est, mais il ne nous condamne pas. Rappelez-vous de cela. Il s'approche d'abord de celui qui est dans le besoin. Il est plein de patience envers le douteur. Sincère, je rajoute. Il est le seul capable de nous guérir de nos doutes. Et il est le seul Dieu digne de confiance absolue. Amen. Merci de votre patience.